Buffy Sainte-Marie dans Radio Zone Onde Femme 93.8. Les femmes de tout l'Empire romain, dont l'espérance de vie se situait entre 20 et 30 ans à la naissance, dont un cinquième ou un quart, peut-être davantage, mouraient entre la naissance et 5 ans, ces femmes étaient mariées vers 12 ans, plus tôt parfois, et généralement avant 18 ans. Les survivantes, qui pouvaient compter vivre environ jusqu'à 40 ans, savaient parfaitement que l'accouchement risquait d'être mortel. Même si la première naissance montrait que la conformation du bassin était favorable, c'est-à-dire si la jeune femme survivait, une mauvaise présentation pouvait toujours rendre dramatique une naissance ultérieure. Considérons d'abord qu'une fois mère de trois enfants, les fameux trois enfants qu'elle devait produire pour le mari, pour le père, pour la succession, les femmes sont dégoûtées de l'amour. Ça, c'est Aristote qui le dit, qui l'écrit. Hors de la mère, la femelle, en raison de sa faiblesse constitutive, atteint plus vite l'âge adulte et la vieillesse. Les mâles sont pendant tout ce temps en meilleure condition physique, tandis que la plupart des femmes se portent mal du fait de la grossesse. Considérons donc ainsi qu'elles vieillissaient plus vite que les hommes. Le corps abîmé, le vagin mal remis des accouchements, ce sont les femmes qui désiraient souffler et préféraient se passer de relations sexuelles. Mais on ne peut raisonner ainsi tout crûment. Nous le faisons parce que nous savons que bon nombre de femmes qui ont aujourd'hui 60 ans et qui souffrent de prolapsus se réjouissent d'avoir un prétexte médical pour refuser les relations sexuelles à leur mari. Mais la situation était alors différente, car la société faisait en sorte que le problème n'eût pas à se poser. Ici, il faut envisager nettement la question de l'attirance sexuelle de l'épouse et même si son apparence est conservée, de sa réticence à des relations parfois devenues pénibles ou impossibles. Les seules allusions de l'Antiquité concernant les accouchements de filles trop jeunes, mais on peut penser que dans les grandes villes où les gens du peuple avaient les jambes arquées, certainement en raison du manque d'exposition au soleil et d'un allaitement abrégé, les femmes avaient souvent le bassin trop étroit. Au lieu de penser en termes de planning familial, nous pouvons tenter de penser en termes de sauvegarde des femmes de la classe supérieure, autrement dit, en termes de limitation de la mortalité féminine et non pas limitation des naissances. Le fait est que les Romains ne se préoccupaient jamais de penser la limitation du nombre d'enfants. C'était une pratique et non une pensée. En revanche, il est certain qu'ils souhaitaient en fixer la limite inférieure ou contraindre à des mariages légitimes afin d'assurer le nombre des citoyens nés de mariages légitimes. Il n'y avait là aucune pensée de limitation. Pourquoi ? Parce qu'on savait très bien comment limiter les naissances. Par la continence de la femme mariée qui vivait dans la continence, et cela se savait. Plutôt que de s'évertuer à faire produire par des données de nature diverse une statistique de la mortalité féminine dans le monde romain, prenons comme point de départ les risques certains de la vie des femmes afin d'examiner comment la société s'arrangeait pour répartir ces risques. Partons de la différenciation sociale par statut social pour examiner comment les risques étaient partagés et comment ils étaient répartis. Donc partagés, hein. En termes écologie, si on peut dire, et comment elles étaient réparties, donc bien sûr à l'intérieur de la société. Autrement dit, examinons quelles sont les femmes de l'Empire qui supportaient la vie sexuelle de leur mari citoyen. Il y avait une césure nette qui passait entre les personnes dites honorables et les personnes, hommes et femmes, dites infâmes. Le critère en était fondamentalement sexuel. Tous les milieux dont la liberté demeure étaient à la fois notoires et condamnés. Les infâmes comprenaient tous ceux qui appartenaient au milieu du théâtre, du cirque et de la prostitution. Les citoyennes romaines qui se prostituaient tombaient donc dans un statut inférieur manifesté par l'interdiction de porter le manteau des matrones. Les épouses adultères de même, ainsi que les concubines adultères ou les affranchies épouses de leur patron qui se séparaient de lui sans son accord. l'infamie privée définitivement du droit de mariage légitime et de la transmission d'une capacité civique complète. Elle était héréditaire. Cette catégorie existait aussi dans le monde grec, quoique moins souvent évoquée par des sources. Les hommes n'étaient pas élevés dans l'idée qu'il leur faudrait se contenir. Le jeune garçon apprenait à regarder d'un œil concupiscent les filles esclaves de la maison. Il en trouvait toujours de très jeunes à utiliser pour son plaisir. Il allait aussi varier ses plaisirs amoureux auprès des prostituées. L'essentiel n'est pas l'aspect individuel de ces comportements, mais leur aspect singulier, c'est-à-dire exemplaire, qui en fait l'illustration d'un arrangement social général dans lequel toute une population d'hommes et de femmes s'offrait aux citoyens pour satisfaire des désirs que des médecins conseillaient de ne pas réprimer. Tous ceux qui étaient esclaves et tous ceux qui n'étaient pas honorables. Ces êtres, hommes et femmes, pouvaient être l'objet de rapports occasionnels, mais souvent les femmes devenaient concubines, attitrées d'un libre amoureux. Les autres sociétés de l'Empire ou de l'extérieur de l'Empire romain avaient aussi leurs pratiques pour limiter les naissances. Les Germains de Tacite, qui acceptaient tous leurs enfants, étaient réputés et méprisés à Rome parce qu'ils pratiquaient la sodomie. Dans la cité athénienne classique, la cité qui a le plus sévèrement contrôlé la légitimité de ses citoyens, qui a rejeté les fils de ses citoyennes non mariées à des citoyens, qui n'a jamais donné la cité à un affranchi, eh bien, le citoyen devait éviter de donner des enfants à une étrangère ou une affranchie ou même à une citoyenne non mariée. Ces hommes préféraient créer des liens amoureux avec des jeunes garçons dans un système parfaitement localisé dans le temps et l'espace, tout à fait particulier à la civilisation grecque. Les maris romains ont importé ce système, mais jamais dans les termes exacts de son utilisation athénienne. Le concubinat, en revanche, est un système typiquement romain. Les Romains avaient choisi un autre modèle de protection des femmes citoyennes et de satisfaction de leurs maris, l'amour avec des esclaves femmes ou des affranchis. Partout, chez Épictète ou Philon, il est question de l'attirance incontrôlée pour de petites esclaves. Comme les hommes affranchis, les femmes affranchies entraient dans la citoyenneté et pouvaient leur transmettre à leurs enfants nés libres. Des femmes étrangères acquises sur un marché ou des femmes nées dans la maison du maître pouvaient être intégrées parmi les femmes honorables romaines et donner naissance à des citoyens. Rome avait créé un droit du concubinat qui réglait les obligations de ces femmes en les calquant sur celles des épouses. Même âge requis pour un lit officiel, 12 ans, fidélité obligatoire de la femme concubine, et qui de plus restreignait la possibilité de séparation à l'initiative d'une affranchie, l'esclave en étant évidemment dépourvue. Vêtues comme les épouses légitimes, les concubines manifestaient, en couvrant leur corps et leur tête, leur appartenance à un citoyen. Sur ces femmes dont les enfants pouvaient être citoyens, ceux de l'affranchie citoyenne en naissance, ceux de l'esclave par affranchissement, reposait alors la charge des risques périnataux évités aux épouses officielles protégées par l'arrangement social. Tout Toutefois, il n'était pas agréable pour un homme d'avoir des bâtards en nombre, issus de ses relations avec des esclaves et des concubines. En zone grecque, on faisait imaginer aux citoyens, pour les en dissidu à D, la condition malheureuse de ses enfants méprisés. Ce sont les affranchies concubines qui supportaient le poids de grossesses multiples et du vieillissement précoce suivi de l'abandon de leur corps délabré à un affranchi ou à un autre esclave. Ce sont elles qui portaient le poids des avortements si le maître ne voulait pas les voir enceintes ou si elles-mêmes s'y refusaient. Il est évident que les médecins qui nous ont transmis tant de recettes prétendument anticonceptionnelles, souvent efficacement abortives comme l'armoise, ne précisent pas quelle est la femme à qui le maître fait donner la potion. Ils précisent seulement qu'ils ne la donneront pas à des femmes qui veulent cacher un adultère. Et c'est bien le moins dans cette société. Et ils ne le donneront pas non plus aux femmes égoïstes qui veulent préserver leur beauté. Sur l'agrément des avortements, en particulier aux potions de rue, un ancien dicton en dit long. Je cite « Et tu n'en es même pas au persil et à la rue, ce n'est rien ce que tu souffres aujourd'hui. » La situation actuelle du Kenya, où des petites filles sont données par leurs parents ruraux et pauvres comme domestiques de maisons urbaines, montre que les conditions antiques ici énoncées ne sont pas impossibles. Antérieurement à une évolution récente et dans certaines communautés polygames, les premières épouses veillaient à ce que les épouses suivantes, même prises avant la puberté, n'aient de rapport sexuel avec leur mari qu'après la puberté. Maintenant, les maîtres usent de petites filles prises comme domestiques, les renvoient dès qu'elles sont enceintes. Elles avortent souvent et dans de mauvaises conditions. Les épouses de la haute société romaine ne voyaient pas d'inconvénient en relation de leur mari avec des esclaves ou des concubines. Elles choisissaient même parfois ses associés. Et cela dès la République. Par exemple, la femme de Scipion l'Africain, elle connaissait l'ami de son mari, la franchit après la mort de Scipion et la maria à l'un de ses affranchis. Livy fournissait à Auguste, qui lui était véritablement attaché, les petites filles vierges qu'il aimait à déflorer. Les rôles des femmes honorables étaient pour le moins étranges à cette époque. En Afrique romaine, des épouses se consacraient au service de la terrible Cérès africaine, devenaient continentes et fournissaient des concubines à leur mari. La chasteté païenne consistait à ne pas désirer d'être désirée. Les règles d'admission des candidats au christianisme nous confirment que ce sont les concubines qui avortent ou qui jettent les enfants. Citation, « La concubine de quelqu'un, si elle est son esclave, si elle a élevé ses enfants et s'est attachée à lui seul, entendra cette parole, sinon elle sera renvoyée. L'homme qui a une concubine cessera et prendra femme suivant la loi. S'il refuse, il sera renvoyé. » Cette pratique était assez répandue pour que des hommes affranchis fassent des inscriptions funéraires pour eux-mêmes et pour leurs deux ou trois femmes, dites indifféremment épouses, peut-être selon la loi, ou compagnes, s'ils étaient esclaves. On a pensé que l'inscription commémorait deux épouses successives, mais nous les verrions plutôt simultanées, l'une légitime, l'autre concubine, et d'accord entre elles. La solution employée par les Juifs était parallèle à la solution romaine. On sait par le Talmud que des juifs polygames faisaient des enfants à la première épouse et faisaient prendre la potion à la seconde, qui était là pour le plaisir. Alors pour finir, la pratique de la continence des épouses de la classe supérieure était devenue un signe de leur distinction. Une grossesse tardive, par exemple à 25 ans, révélait qu'elles n'avaient pas maîtrisé leurs désirs. Ainsi, parle Sénèque à sa mère, « Jamais tu n'as eu honte d'être enceinte quand tu avais passé l'âge. Jamais tu n'as dissimulé tes grossesses comme un fardeau indécent et tu n'as pas éliminé dans tes viscères les espoirs d'enfant une fois conçus. » Ce n'était pourtant pas si facile d'être continente à l'âge de 20-25 ans, même après avoir eu 3 ou 4 enfants. Et si le mari délaissait classiquement sa femme, il ne faut pas minimiser la tentation de l'adultère. L'amour sexuel dans le mariage était rare et dangereux. Les femmes bien élevées avaient évidemment des chances de voir leurs époux les visiter pour leur faire des enfants. Elles avaient à Rome tout intérêt à produire 3 enfants pour être un jour, après le décès de leur père, libres de toute tutelle sur leurs biens. Mais toutes n'avaient pas la chance de voir leur mari se distraire avec une esclave ou une affranchie concubine. C'est-à-dire que certaines portaient le véritable fardeau des maternités multiples. Un mari amoureux était une catastrophe. Un mari qui faisait à sa femme plus que les 3 enfants nécessaires, qu'on appelait donc les ingénus, était dit uxorieux, ce qui est une critique. Cela le mettait au même plan que les biens attachés à sa femme, elle le tenait. Le mot était employé pour qualifier le Tibre attaché à Ilia, la mère de Romulus et de Rémus, donc dans la mythologie. La même critique visait l'attachement d'Énée pour Didon. Et les Juifs de Rome, qui avaient peut-être renoncé à la polygamie et ne s'étaient pas assez acclimatés pour prendre des concubines, se promenaient avec des familles nombreuses. Et Tacite les méprisait, ils aimaient procréer. Voilà la raison de son mépris pour les Juifs. Les couples féconds étaient rares et pouvaient servir la propagande impériale. Auguste allait jusqu'à produire les couples modestes qui pouvaient présenter une très nombreuse famille. Il avait offert à la ville le spectacle édifiant d'un habitant de Fiesole qui montait au Capitole avec ses 8 enfants, ses 27 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants. Et à l'époque, cela avait frappé. Julia, la fille d'Auguste, veuve une première fois à l'âge de 18 ans, avait été remariée à 20 à Agrippa, dont elle eut 5 enfants en 9 ans de mariage. Auguste fit divorcer Tibère pour la lui faire épouser, mais Tibère était encore amoureux de sa femme répudiée. Julie avait conçu l'amour avec Agrippa, ne puissant pas s'y être trompée à Tibère. Bon, bref, ces histoires sont compliquées, mais son père savait bien comment était sa situation. Et voilà. Finalement, Sénèque qui raconte qu'il fut indulgent pour les amants de sa fille en leur donnant des sauf-conduits pour l'exil au lieu de les faire exécuter. Voyez comme politique et procréation se mélangent à cette époque. Les épouses qui visitaient trop souvent leur mari prenaient goût à l'amour. Tiens. Ce sont elles qui étaient en danger d'adultère et qui, veuves et remariées à un homme qui les délaissait, savaient quoi demander à un amant. Voilà pourquoi il ne faut pas apprendre l'amour aux épouses, selon le conseil de Plutarque. Il y a une contradiction entre la volonté de voir naître des enfants légitimes nombreux et de rehausser la valeur du mariage dans la procréation et la volonté de punir les manifestations de désir chez les épouses. Tout cela pouvait être combiné si les maris n'avaient pas avec elles que des rapports de procréation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas uxorieux. Une satire de Juvenal montre 2 femmes venues la nuit à l'hôtel de Pudicitia pour une rencontre amoureuse. L'obscénité de la pièce cache peut-être la réalité d'amour féminine substituée aux relations hétérosexuelles auxquelles la volonté de limiter la mortalité en couche donnait place. Les femmes de la haute société étaient éduquées pour être un jour continentes. Les femmes de la haute société, peut-être celles des couches relativement favorisées, se trouvaient protégées contre les grotesses multiples par leur éducation à la retenue. À Rome, la défloration précoce en faisait des femmes rageuses mais frigides. Il fallait donc les dresser à la réserve. Retenue de gestes et de paroles, retenue du regard, alimentation stricte, interdiction du vin... Sécurité, sévérité de l'éducation reçue dans la maison même du mari chez qui elle vivait bien souvent avant l'âge de 12 ans, l'âge de leur mariage. Il nous semble qu'on peut croire à une contention tellement intime, assortie de la conscience de leur propre valeur, que rare était celle que le plaisir attirait, retenait, et une fois connue, entraînait dans des aventures qui pouvaient les mener à la condamnation sociale visible. Et si par hasard elles ont réussi à donner à leurs filles une éducation qui leur fasse ignorer leur corps au point d'en ignorer le plaisir, ce que nous nommons frigidité, elles n'ont pas consulté les médecins ni supplié les dieux pour en être délivrées. Cela devait être, au contraire, une bénédiction. L'idéal des femmes qui se sentaient capables d'aimer la sagesse demeurait celui de la vie d'une épouse chaste, occupée principalement à filer, économe et gérant bien sa maison. Pour les femmes pythagoriennes dont nous possédons des fragments de textes, le désir sexuel pour un homme autre que le mari est la cause de tous les autres maux et de la dégradation morale des femmes. deux lettres de femme à une autre femme ont pour mission de conseiller la patience à l'égard du mari attiré par une autre que son épouse. Elle critique les femmes qui détournent les hommes de son épouse, mais aussi énonce la certitude que l'épouse retrouve toujours son mari si elle sait l'attendre. Ce sont les conseils que même Plutarque donne aux jeunes femmes. Je le cite, l'épouse doit supporter que le mari couche avec une concubine ou avec une servante, l'autre lieu de l'exercice de la sagesse pour l'épouse et l'éducation de ses enfants et d'éducation à laquelle elle participe. Elle ne doit pas les élever dans la mollesse. Et dans la lettre qu'écrit Théano, épouse de Pythagore, à une amie, il est question des enfants, indistinctement donc des garçons et des filles. La chasteté des femmes était partout louée comme leur principale vertu, sur les inscriptions des ingénues comme sur celles des affranchis. Et des affranchis remerciaient même pour sa chasteté leur patron qui leur avait laissé une affranchie vierge. L'âge des filles au mariage, un élément qui aurait une incidence démographique si les filles avaient des relations sexuelles tout au long de leur vie de femmes fécondes, n'a plus aucun intérêt démographique si l'on admet que ces filles, si tôt mariées, ont connu dans certaines classes les conjonctions sexuelles nécessaires à la procréation de 3 ou 4 enfants et aucune autre, d'aucune sorte, avec leur époux. En conséquence de quoi, la démographie reste et restera un mystère dans l'Empire romain, mais le travail des historiens pourra continuer à organiser les pratiques sociales concernant la fécondité et la reproduction du groupe humain, et par conséquence, la vie des femmes à qui incombent les tâches ainsi réparties, en un ensemble chaque fois plus significatif du caractère éminemment social de la reproduction humaine, et de la part qui revient aux femmes dans la répartition des risques de l'enfantement. Mais il y a plus. Les sociétés grecques, juives et romaines, tout en réglant par un droit commun au groupe les conditions de l'union légitime, ont arrangé les choses parmi les hautes classes de la société pour protéger le destin biologique des filles de la classe supérieure. Il y a une répartition sociale de la fonction sexuelle de plaisir, une fois réglée la question de la fonction sexuelle de reproduction. Il faut donc s'imaginer à peu près ainsi la société romaine païenne des deux premiers siècles de l'Empire. Une bonne partie des femmes n'avait aucun espoir d'être mariées légitimement, de façon ferme et durable. Les esclaves, mais aussi celles qui, esclaves d'origine, avaient été affranchies par un maître et qui voulaient se les réserver comme concubines. Pourtant, parmi celles-là, une partie trouvait un affranchi à qui se marier avec l'accord du maître devenu leur patron lorsqu'il était las d'elle. Il y avait encore nombre de citoyennes, de femmes libres d'origine, qui épousaient des citoyens de classe modeste ou se mettaient en ménage avec des non-citoyens. Toutes celles qui vivaient avec des soldats étaient exclues du mariage légitime par le statut militaire. On peut bien penser que les filles de classe modeste étaient élevées sévèrement, préparées à devenir des matrones sérieuses et à faire des enfants légitimes citoyens. Rien ne nous dit que les filles et épouses des classes inférieures étaient par définition moins strictes dans leur idéal et leur pratique de la fidélité que les épouses des aristocrates. C'est parmi les aristocrates qu'on rencontre les scandales, mais aussi les exemples contraires. Et la littérature et l'histoire s'est donc bien sûr intéressée d'abord à elles. Ce que nous a raconté aujourd'hui Louise. Louise Bruit-Zeidman, qui nous racontait la politique des corps entre procréation et continence à Rome. procréation, contraception, avortement, vous le trouvez dans le chapitre 6, la politique des corps de l'histoire des femmes, tome numéro 1, c'est-à-dire l'Antiquité. C'est aux éditions Plon et c'est tout un travail sur l'histoire des femmes qui a été proposé, dirigé par Michel Perrault et Georges Duby. Dans quelques instants, à 18h30, des nouvelles très concrètes, cette fois-ci et réelles, d'aujourd'hui sur cette nouvelle loi sur l'avortement dans les informels de Radio Pleine Lune. À 19h, tout autre chapitre, c'est l'agenda de Marjolaine. Et nous terminons ce remue-ménage que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, à 23h le mercredi soir et à 11h le jeudi matin avec Catherine Larrat.